Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on accueillera la Key Gallery qui propose sa dernière exposition. On en parlera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on accueille Rosaine Sénélas qui est maire de Curzé-sur-Vaune. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous a invité suite à un communiqué du sénateur Bruno Belin qui parlait des difficultés des communes rurales face aux règles encadrant les monuments historiques et qui citait en particulier Curzé-sur-Vaune. Peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de votre commune, notamment le patrimoine historique dont vous bénéficiez.
Oui, tout à fait. Alors, sur la commune de Curzé-sur-Vaune, nous avons l'église Saint-Martin, qui est classée au titre des monuments historiques depuis 1925. Et puis, le château de Curzé, que tout le monde connaît, voilà, qui est classé aussi pour certaines de ses parties.
Alors donc, c'était une question au gouvernement. Monsieur Belin soulignait les difficultés rencontrées par les communes rurales en raison des règles d'urbanisme liées aux monuments historiques. Concrètement, comment ça se traduit sur une commune comme Curzé-sur-Vaune?
Alors concrètement, en termes de demande pour des travaux, on est soit sur une déclaration préalable, alors c'est très administratif, soit sur un permis de construire. Et comme on est sur du périmètre de protection au titre des monuments historiques, effectivement, il y a des préconisations de l'architecte des Bâtiments de France.
Et quel type de projets peuvent être bloqués, par exemple?
Une couleur de menuiserie, de portail, une matière, un type de crépi, c'est assez large en fait.
Et alors, ça concerne les monuments classés, mais ça concerne aussi
les alentours.
Les alentours, c'est
voilà.
Ça qu'il faut peut-être préciser.
Tout à fait. Sur 500 mètres, ce qui correspond pour la commune de Curzé, au bourg en fait, de Curzé.
Oui, la totalité du
dans son intégrité. Oui, ouais. Tout à fait.
500 mètres, effectivement, pour une petite commune,
c'est très large.
Ça fait très, très large.
Oui.
Il disait qu'entre 2023 et début 2025, un quart des dossiers d'urbanisme ont été rejetés à Curzé-sur-Vaune à cause de l'ABF. Quel est l'impact de ces refus pour la rénovation de l'habitat, notamment, qui est aussi, pour le gouvernement, quelque chose d'important, et pour une commune aussi.
Alors, un quart qui n'a pas forcément été rejeté, mais en tout cas, on peut dire retoqué. Excusez-moi, je suis obligée de vous demander la question, j'ai oublié.
Non, mais du coup, quel est l'impact de ce nombre-là important de dossiers qui ne sont pas acceptés?
Eh bien, d'abord, pour les administrés, je pense que c'est complexe pour eux. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se rendre en mairie pour se faire expliquer les choses au niveau de la mairie ou alors au niveau du service urbanisme de Grand Poitiers par lequel on est accompagné ou alors au niveau du service de l'architecte des Bâtiments de France. Au niveau de la commune, de la collectivité, on a un agent qui s'occupe sur place de recevoir les administrés. C'est mon secrétaire, Jimmy Salès, qui s'occupe de recevoir les administrés. Donc c'est aussi du temps pour lui. Voilà, beaucoup de temps passé.
Oui, et est-ce que dans une petite commune comme la vôtre, on a effectivement les moyens humains pour accompagner tous ces habitants et puis les compétences aussi, parce que c'est des...
Alors les compétences, pas forcément, effectivement. C'est pour ça qu'on s'appuie sur le service urbanisme de Grand Poitiers. Et puis l'accompagnement des administrés, on se donne la possibilité de les accompagner sur le fond, sur la forme, pour que ce soit au mieux pour eux. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait.
Et est-ce qu'il y a des risques que les gens abandonnent, que les maisons se dégradent?
Oui, tout à fait. Ouais, oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit à Curzé.
Vous le voyez déjà?
Oui, tout à fait. Voilà, y compris au niveau du château de Curzé, qui a pu avoir deux permis de construire en l'espace de, on va dire, allez, 3 ans. Et puis là, le château de Curzé, il est à vendre, malheureusement, depuis le mois de septembre 2024.
Alors racontez-nous l'histoire de ce château. Ça, c'était effectivement hôtel-restaurant, ça a été vendu à une star américaine.
Tout à fait, un ancien producteur de cinéma américain, je ne sais pas si je peux le
citer,
ça
citer.
Lui fera peut-être de la publicité, c'est monsieur Kevin Wendell, voilà, un américain, qui a acheté ce château en 2020, avec des grands projets magnifiques, avec le souhait de faire effectivement vivre le château, et de faire aussi un restaurant. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient parce que la lenteur administrative et les conditions sont telles qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son projet.
Et vous pensez effectivement que c'est notamment dû à cette rigidité peut-être
du
fait que ce soit un monument historique ?
Oui, tout à fait. Oui.
Quelles sont, par exemple, les choses qu'il voulait modifier et qui n'étaient pas possibles ?
Alors, il aurait souhaité, dans la partie du bois, il y a un bois en fait qui est classé, qui est attenant au château, il aurait souhaité installer des lodges en pleine nature. Et bien sûr, ça n'était pas possible puisque c'était classé. Voilà, tout plein de choses. Il aurait souhaité remanier une partie qui correspondait à un ancien haras et sur lequel, en fait, il fallait faire des fouilles archéologiques. Voilà, tout plein d'enchaînements administratifs et de demandes qui sont très longues.
Et donc, la conclusion, c'est qu'il a laissé tomber ?
Oui, tout à fait.
Et donc, le château, là, est en vente et,
château est en vente, voilà.
Et quel est l'avenir pour ce château
Malheureusement, je ne peux pas vous répondre.
Ouais.
Je croise les doigts pour qu'il y ait un acheteur. Voilà.
Oui, parce que la commune n'aurait pas les moyens d'entretenir ce château.
Non, tout à fait. Elle n'aurait pas du tout les moyens. Je pense qu'il lui faudrait plusieurs dizaines de mandats.
Ouais. Immense château
investir.
Avec des dépendances,
oui,
avec un bois,
oui.
Vous le disiez. Donc, alors là, vous êtes suspendu à cette vente, quoi.
Oui.
C'est ça l'idée.
Voilà, après le château, sur la partie qui a été refaite, quand les gens passent à Curzée, ils peuvent voir qu'effectivement, il y a un magnifique portail qui a été refait, la cour intérieure, la cour d'honneur, le château en lui-même, en fait, il y a des suites qui ont été refaites, c'est absolument magnifique. Voilà, il y a quand même du travail qui a été fait, et ça, il faut le souligner.
Et alors, donc l'architecte des bâtiments de France est perçu comme un peu rigide. Est-ce que vous partagez cette image-là, cette sensation-là ?
Bonne question. Très bonne question. Effectivement, moi, je trouve qu'il y a de la rigidité. Et c'est la raison pour laquelle on a prévu de se rencontrer avec l'architecte des bâtiments de France la fin juin, parce que je pense que la première des solutions, c'est la communication. Qu'elle vienne sur le terrain, qu'on puisse échanger ensemble et sur les difficultés des habitants, leur montant des dossiers concrets. Et puis sur notre église Saint-Martin aussi, hein, qui est classée et qui a besoin d'être restaurée. Et puis peut-être un peu sur le château.
Alors, il y a certaines communes qui envisageraient même de déclasser leurs monuments historiques.
Ouais.
Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'avoir un site classé ?
Qu'est-ce que ça apporte ? Aujourd'hui, je me le demande. Aujourd'hui, je me le demande, parce que notre commune, elle n'a pas les moyens en phase financière de restaurer, par exemple, l'église Saint-Martin. Je ne sais pas.
Parce que normalement, il y a des aides pour les monuments historiques.
Oui, alors il y a des aides, mais il faut passer... Déjà, la procédure, elle est longue. Hein. Moi, j'ai appris ça depuis mes 3 ans de mandat. Là, c'est très, très long. Il faut passer par un diagnostic partiel, par un architecte du patrimoine, hein, qui est coûteux, puis par un diagnostic intégral, on va dire, hein, et puis faire des demandes de subventions qu'on n'est pas forcément sûr d'avoir. Voilà.
Donc aujourd'hui, même vous remettez en question ce classement, même à Curzée, pour l'église et le château.
Oui, effectivement.
Et est-ce que
alors peut-être pas le château quand même,
ouais.
Mais l'église, oui, je me pose la question, ou du moins de réduire le périmètre des 500 mètres à 200 peut-être.
Oui, c'est ça. Quelles sont les pistes qui pourraient être proposées pour assouplir et vous permettre de faire des travaux ? Qu'est-ce que vous alliez lui dire à cet architecte des bâtiments de France ?
Il faut qu'on trouve des solutions en urgence, que l'église, elle a 3 éléments qui nécessitent d'être faits. Peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être qu'on peut trouver un compromis, au moins sur une des portes là, qui mérite d'être faite très très rapidement. Voilà, on verra ça le 20 juin.
En gros, c'est soit ils assouplissent, soit ça va se dégrader. C'est un peu
oui.
Ça le,
oui.
La conclusion.
Oui, tout à fait. Oui, d'autant plus que les dotations de l'État... qu'on peut demander, là, avec tout ce qui se passe au niveau
réduction
finance,
de budget,
exactement,
ouais.
On n'est pas du tout sûr, ni cette année, ni les années à venir, de pouvoir avoir les finances nécessaires et les aides nécessaires.
Merci beaucoup, Rosane Senelas, d'être venue nous parler de ces difficultés qui, j'imagine, résonnent dans plusieurs communes du territoire.
Oui, complètement.
Donc, vous associez à cette question gouvernement qui avait été posée par Bruno Belin. Et donc, le message est passé, en tout cas, pour l'architecte des bâtiments de France que vous rencontrez le mois prochain.
Oui, merci beaucoup. Merci pour votre accueil.
Merci à vous. C'était très intéressant d'illustrer, effectivement, ces difficultés sur le territoire. On continue en musique avec Marina Appé et Roots Red et ce titre Denver Sky issu de l'EP Get Me High Siri.
It's a gray day for Mrs. B. Colorado nice down in the tropical green avocado then green chocolate. Well, everything's so new. So new. Olga, Olga, Olga. Now I've been eaten by a monster made of concrete, made of glass. I was just a tiny piece of his daily human's lunch in my room, all 9 on 9. I felt I was living in a hive in my room. See my God shot like but some put to me. See my DJ and me, my DJ and me now. Now we are clouds from a fire, vapor in the Denver sky. Nimbus is puff while we fly, missing us while we fly. Now we are clouds while we fly, vapor in the Denver sky. Nimbus is puff. Fly a day of I am nice. Swimming pool till the morning light. I found me space. I forgot his every way. The buildings pop me up to the day. So I left to see teachers daily routine. No vertigo, no nicotine. Smoking car, walking in the streets on my way to a new play machine. In my room, mind. Yeah, now we are clouds while we fly, vapor in the Denver sky, nimbus is pop while we fly, misting us while we fly, now we are clouds while we fly, vapor in the Denver sky, nimbus is pop while we fly.
Supérieur à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Alors, notre deuxième invité du jour, c'est Rémi Gautreau de la Key Gallery, galerie d'art contemporain à Poitiers, qui s'est installée, il y a un an, en juin 2024. Merci d'être avec nous, Rémi.
Je vous en prie, merci.
Est-ce que vous pourriez nous raconter déjà un petit peu l'histoire de la Key Gallery qui vient de Paris, en fait, qui a décidé de s'installer à Poitiers l'année dernière?
Oui, alors Key Gallery, c'est une galerie d'art contemporain qui existe à Paris depuis 2019. On travaille avec des artistes français, mais internationaux aussi. Beaucoup de courants street art, pop art, des choses très actuelles. Et dans notre noyau d'artistes, on a aussi quelques perles qui viennent de Poitiers, des environs. Donc on s'est aussi un petit peu agrandi depuis l'année dernière en venant investir un espace pendant un an à Poitiers.
Et qu'est-ce qui vous avait donné envie de venir à Poitiers, sachant que ce n'est pas le même public, on va dire, qu'à Paris ?
Non, effectivement, mais en soi, avoir une galerie d'art à Paris, on n'a pas que des clients parisiens non plus. Ça traverse le périph' et les frontières, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a eu beaucoup de réseaux un peu partout en France. On s'est dit que, quitte à s'agrandir, il fallait aussi essayer d'amener un petit peu l'art dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup d'offres. Et puis aussi pas être noyé non plus dans d'autres galeries, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi ciblé sur une ville de taille un peu plus moyenne et qui a l'avantage d'être relativement proche de Paris aussi pour moi. Donc pour les trajets, c'est plus facile.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu proposer pendant cette année ? Qu'est-ce que vous retenez de cette année à Poitiers ?
En fait, on est venu avec une sélection de notre collection. Une vingtaine de profils d'artistes différents qu'on a exposés dans une des parties de la galerie. Et au-delà de ça, on a créé des espaces d'exposition temporaire qu'on a proposés à des artistes locaux. Pas uniquement, mais en priorité des artistes locaux pour faire des expositions sur une quinzaine de jours, sur un mois. Pour la plupart, c'était des premières expériences. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'accompagner les artistes pour avoir la chance d'exposer, parce que c'est jamais évident non plus d'avoir accès en tant qu'artiste à une galerie. Donc le projet, c'était vraiment de soutenir un petit peu les profils aussi locaux pour essayer de se lancer et d'avoir un retour sur leurs travaux par rapport aux visiteurs.
Et du coup, quel est le retour à la fois des artistes et du public qui est passé dans la galerie ?
C'est un peu vague comme question parce qu'il y a de tous les avis. L'art, c'est un peu voilà, chacun son truc.
J'imagine que vous avez fait un petit bilan, un petit peu de comment ça a été accueilli cette proposition.
Il y a eu beaucoup de retours positifs parce que effectivement à Poitiers, il n'y a pas eu beaucoup d'offres depuis longtemps. Il y a quelques galeries qui sont là, mais avoir des collections un peu plus urbaines. Il n'y en a pas eu vraiment beaucoup, concrètement. Donc ça a beaucoup intéressé, j'ai trouvé, le public de Poitiers. Donc là-dessus, c'était plutôt positif. Donc on a rencontré pas mal de personnes qui s'y intéressaient. Et puis surtout beaucoup d'artistes aussi qu'on a pu rencontrer. À Poitiers, il y a un vivier énorme d'artistes. Je pense que ça, je le dis à chaque fois, mais on ne se rend pas compte du tout de la proportion. Je pense que c'est plus que dans beaucoup d'autres villes.
Et surtout ça, dans cet art urbain, peut-être aussi.
Art urbain, ouais, mais pas que, en fait. Vraiment beaucoup d'événements. Je ne sais pas si vous parlerez du chemin des ateliers du département, mais là, ils sont tellement nombreux, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, très riche.
Et en termes d'acheteurs, est-ce qu'il y a du potentiel pour une galerie d'art ?
Ça, c'est la question toujours posée. Ça vaut le coup de venir à Poitiers ? Oui, honnêtement, oui, en toute transparence. Il y a eu beaucoup d'intérêt, il y a eu de nombreux clients. C'est une aventure qui a fonctionné. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que nous, on avait programmé vraiment de rester qu'un an, de tenter cette aventure-là sur un an. Mais en soi, s'il y a des nouvelles galeries qui veulent s'implanter, des jeunes galeries, il y a une place à prendre. Ça peut fonctionner vraiment.
Alors, vous terminez cette année avec une exposition qui s'appelle Libre-Échange. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du concept ?
C'est un concept un peu particulier. Alors, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est en fait une sorte d'expo rétrospective de tous les artistes qui ont exposé à la galerie pendant l'année, plus un petit noyau d'artistes avec qui on travaille qui sont localement implantés. En fait, ils vont être 25 artistes. Chacun va exposer une œuvre pendant 3 semaines. Et les œuvres ne seront pas à vendre, mais elles seront à échanger. En fait, les visiteurs pourront venir. Et s'ils ont le coup de cœur sur une œuvre, ils auront la possibilité de l'acquérir, mais sans payer. En fait, en essayant de troquer contre quelque chose, n'importe quoi. Je ne sais pas, de chaussures, une invitation au restaurant pour l'artiste, tout ce qui peut leur passer par la tête. Et à la fin de l'expo, en fait, chaque artiste aura sous son tableau un nombre de post-it correspondant à toutes les offres reçues et il en choisira une seule en échange de son œuvre.
Donc si vous avez des compétences particulières, si vous avez...
Ouais,
Vous pouvez les troquer peut-être.
Oui.
Comment les artistes ont accueilli cette proposition d'échange non financier ?
plutôt bien. Et j'ai trouvé ça franchement sympa de leur part, parce que c'est un concept vraiment particulier de se dire je vais donner mon œuvre sans savoir ce que j'aurai en retour. Et ils se sont tous prêtés au jeu. Et là-dessus, franchement, merci, bravo à eux. Et il y a des belles pièces en plus, des beaux formats, des belles œuvres qui sont proposées. C'est pas le petit truc qui était resté au fond d'atelier pendant 6 ans. Donc là, non, il y a vraiment des pièces en plus qui ont été créées pour l'événement. Donc non, il y a des choses intéressantes à avoir.
Et pourquoi finir par ce concept-là? Est-ce qu'il y a un message derrière? Est-ce que vous aviez envie de susciter quelque chose chez les visiteurs?
Le message, c'est surtout en fait d'essayer de rappeler aux gens que au début, l'art, c'est fait pour qu'on discute, pour qu'on échange autour de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. C'est pas qu'une valeur d'argent. Et en fait, à travers ce concept-là, on voulait vraiment casser cette notion d'art inaccessible parce que ça coûterait soi-disant trop cher. Je dis soi-disant parce que nous, dans notre collection, on a des pièces qui commencent à 50 euros, des pièces numérotées, ça reste des vraies œuvres d'art, mais à des budgets hyper abordables. Donc en fait, avec ce principe de troc, on peut, tout le monde, étudiant, n'importe quel public, de n'importe quel milieu social, peut prétendre avoir une œuvre à la fin, chez soi contre n'importe quoi, si tant est qu'en face, l'artiste ait trouvé ça hyper intéressant, quoi.
Donc cette dernière exposition avant fermeture de la galerie, est-ce que vous savez déjà ce que ça va devenir, cet espace rue de la Regretterie?
Non, aucune idée. Non. Aucune idée là-dessus, non. Non, je sais juste que c'est un très beau local. S'il y a d'autres commerçants qui veulent le prendre, n'hésitez pas.
Et que donc l'expérience était belle et que vous ne partez pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que c'était un projet d'un an.
Exactement, non, c'était défini à l'avance. On avait aussi annoncé ça en arrivant. Ça fonctionne, c'était une belle aventure, beaucoup de rencontres. Et non, ça reste une très très bonne expérience.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette aventure donc de la Key Gallery. Et vous pouvez encore donc acquérir une œuvre contre ce que vous avez chez vous ou ce que vous savez faire, si vous arrivez à séduire les artistes.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc Rémi Gautreau de la Key Gallery, cette galerie d'art contemporain plutôt urbaine, effectivement. On continue avec le cinéma, puisque Candice Mottet de Berre du Cinéma L'Auditrice est avec nous pour son retour. Bonjour Candice.
Bonjour.
Merci d'être là. Et tu as deux sorties à nous proposer, deux sorties assez différentes.
Complètement. Et puis en plus, la transition est toute trouvée avec la Key Gallery. Le premier film que je vous propose, il ne restera qu'une semaine au Dietrich. On tenait absolument à le soutenir, mais on n'avait pas tant de place que ça. Il s'appelle Elle. C'est un premier long métrage d'un artiste plasticien français qui s'appelle Thibaut Aymin, avec un casting très peu connu. On va dénicher de la pépite. On a été la dénicher au festival de Gérardmer, donc le festival du film international fantastique et d'horreur. Alors c'est une sorte de drame fantastique difficilement classable en réalité. Anx vient de rencontrer Cass quand l'épidémie éclate. Partout, les gens se mettent à fusionner avec des choses. Cloîtrés dans leur appartement, le couple doit faire face à cette menace monstrueuse. Alors je vous en dirai pas plus, mais au Dietrich en ce moment, c'est nous qui avons envie d'écrire les propres critiques, donc je vous lis humblement notre critique. Après une longue gestation de 13 ans, on comprend pourquoi le projet est tellement ambitieux. Thibaut Aymin, fasciné par le métamorphisme et sous influence avouée de Cronenberg et Tsukamoto, qui a fait Tetsuo, notamment avec un film qu'on a refait au Dietrich, adapte en version longue le court-métrage qu'il avait produit pendant ses études à la FEMIS. Il en résulte un premier film intime, poétique, organique, hallucinatoire, déroutant, agaçant aussi, parfois, on ose le dire, mais il se dégage de ce huis clos métaphysique, avec des effets spéciaux bluffants, avec un budget restreint et sans recours massif à l'IA, on tient à le préciser, parce que maintenant il va falloir le préciser pour nos films. Une radicalité qui force le respect, qu'on adhère ou pas. C'est le genre de film qui est vraiment une expérience, alors là, on sait que les gens ressortiront, soit ils auront détesté, soit ils auront suradoré, on ne pourra pas rester de marbre. Ça crie, ça suinte, ça fait même un peu l'amour, c'est ça qui est beau aussi hein, dans ce film. Donc Elle, c'est un drame fantastique de Thibaut Aymin, c'est désolé aujourd'hui au Dietrich et ça ne reste qu'une semaine, donc soutenons les premiers films français. Et puis le second, alors là on change carrément de catégorie, on part sur un drame historique espagnol réalisé par Aitor Arregui et John Gariano. Alors ça s'appelle Marco, l'énigme d'une vie. C'est un film qui est sorti, qui sort ce mois de mai, qu'on avait déjà fait au festival du film espagnol et portugais de Poitiers, hein, qu'on fait avec nos amis du TAP Castille. Enrique Marco est le président de l'association des victimes espagnoles de l'Holocauste. À l'approche d'une commémoration, un historien conteste son passé d'ancien déporté. Marco va alors se battre pour maintenir sa vérité, alors que les preuves contre lui s'accumulent. Alors c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Là on parle d'un film de fiction mais qui est tiré d'une histoire vraie. Compte tenu du contexte historique et de toutes les mentions que le film fait de la cruauté des nazis, le film Marco, il ne devrait pas être drôle, on est d'accord. Et pourtant il l'est. C'est même un des titres les plus plaisants à regarder de la Mostra de Venise de cette année. C'est dynamique, tordu, c'est exalté, une prestation de l'acteur Édouard Fernandez qui a l'air d'un petit pauvre petit monsieur comme ça, et on va rentrer dans sa psyché mensongère ou non, hein. je garde la surprise. Marco, il s'inspire des faits réels hallucinants. C'est pas connu, hein, des spectateurs du monde entier, mais cette histoire a fait grand bruit en Espagne. Et ça nous rappelle aussi, hein, les personnes qui mentent, hein, comme quoi ils auraient vécu. Là, on se rappelle de l'histoire qui s'est passée au Bataclan en France. Voilà, ça relie, on rentre dans les psychés de ces gens-là qui, peut-être, mentent. Et pourquoi, psychiatriquement, ils ont envie de faire ça. L'important, c'est donc de découvrir l'esprit de ce type sans connaître le dénouement. C'est une expérience absolument fascinante. Ça fait du bien d'entendre du film au cinéma espagnol. Là, dernièrement, on n'avait pas eu trop de films espagnols. Donc, on est très contente. Ça sort à partir d'aujourd'hui et ça restera jusqu'à la mi-juin au cinéma Le Dietrich.
Merci beaucoup, Candice, pour toutes ces bonnes propositions cinématographiques. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec des photos nocturnes plongées dans l'univers fascinant de la nuit avec l'exposition annuelle du club photo Les Photons, entre ombre et lumière, découvrez des clichés révélant la beauté mystérieuse du monde nocturne. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 26 septembre à la Une à Saint-Benoît. Et puis Mélodie Fontaine est en spectacle à l'espace République Corner, chroniqueuse dans la bande originale sur Inter. Mélodie a décidé de tout vous raconter, son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs. Donc c'est au République Corner à partir de 25 euros. Sur Pulsar, retrouvez à 21h L'Indépendance, votre émission Novo Pop, et à 23h Sonokino. Merci Angélique pour la... Merci, oui, Angélique et Solène pour la réalisation technique de cette émission. Et on se quitte avec Louisa, ce titre fantastique puisqu'elle est programmée au festival Au fil du son. Bon après-midi en musique.